France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, Jean-Luc Gadreau sur France Culture en ce dimanche de Pâques. C'est Solae, le rendez-vous protestant, une émission produite par la Fédération protestante de France. Et c'est un anniversaire également ce matin, puisque cette émission est la 200e. Le 5 septembre 2021 était diffusée la première de ce nouveau format qui prenait la suite du service protestant. Ravivons nos souvenirs quelques instants. Beaucoup de joie et d'émotion en fait de vous retrouver en ce premier dimanche de septembre dans cette nouvelle formule sur laquelle nous travaillons depuis de longs mois avec toute une équipe de la Fédération protestante. Solae, le rendez-vous protestant, c'est donc désormais ce magazine pour proposer à l'ensemble des auditeurs de France Culture un regard protestant sur le monde, sur notre société, sur sa culture. Réfléchir ensemble autour du texte biblique, la parole, qui sera d'ailleurs tel un fil rouge dans chacune de nos émissions, pour lui offrir un espace et chercher à comprendre ce que cette parole peut nous révéler, nous indiquer, nous inspirer encore aujourd'hui. Solae, c'est le rendez-vous protestant avec des personnes très variées, des experts, mais aussi de simples témoins, des temps de dialogue, d'échange et parfois même entre des personnalités de la société civile et des représentants du protestantisme. On peut sans doute le résumer ainsi. Solae, le rendez-vous protestant, c'est le temps de la louange, de la rencontre et du témoignage. Alors, bienvenue à chacune et chacun dans ce premier numéro de Solae, le rendez-vous protestant. Voilà un souvenir du démarrage de cette première émission. J'aimerais vraiment dire un grand merci à vous tous qui avez validé concrètement ce magazine protestant sur France Culture en étant de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous signifier aussi votre intérêt. 200e déjà, on ne cessant de chercher à perfectionner les choses bien évidemment et puis à répondre surtout à vos attentes. Anniversaire donc de Solae, mais surtout, malgré tout, dimanche de Pâques. Et pour en parler ce matin avec ce regard protestant que nous cherchons à poser ici, un pasteur, c'est Arnaud Jeuch, actuellement en poste à l'église baptiste de l'avenue du Maine à Paris, anciennement à Marseille, où il occupait également la responsabilité de président du pôle Marseille de la Fédération protestante. Bonjour Arnaud Jeuch.
Bonjour Jean-Luc Gadreau.
Pâques, fête essentielle du christianisme, moment important pour vous j'imagine.
Absolument, Pâques c'est l'événement historique majeur pour la foi chrétienne, la résurrection du Christ, du Seigneur. C'est la pierre d'angle de tout l'édifice de la foi chrétienne.
Et pour vous aussi donc.
Oui absolument.
Vous le vivez d'ailleurs en paroisse j'imagine avec des temps particuliers dans la Semaine Sainte.
Oui on a un programme un peu plus fourni en Semaine Sainte de soirées de oui. Voilà biblique de louanges aussi et de prières.
C'est un beau et bon moment à investir en communauté. Alors ce matin nous allons quand même prendre un chemin un peu de traverse pour parler de cet événement avec un récit d'évangile mais bien avant les faits. Nous retrouverons Jésus dans une discussion avec diverses personnes qui sont là autour de lui. Allons avec notre lectrice du jour, Emmanuela RM, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, les versets 38 à 42. C'est notre rendez-vous avec la parole.
Alors, quelques spécialistes des Écritures et quelques pharisiens dirent à Jésus : « Seigneur, nous voudrions voir un signe extraordinaire. » Jésus leur répondit : cette génération, qui est mauvaise et infidèle à Dieu, réclame un signe. Mais aucun signe ne lui sera accordé si ce n'est celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en face de cette génération et l'accuseront. Car les Ninivites ont changé de vie quand ils ont entendu prêcher Jonas. Et pourtant, il y a ici plus que Jonas. Au jour du jugement, la reine du Sud se lèvera en face de cette génération et l'accusera. Car elle est venue des régions les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et pourtant, il y a ici plus que Salomon.
Et oui, c'est un peu surprenant, on est à Pâques et puis on va dans les évangiles, mais pour un texte qui nous parle d'une autre histoire, celle de Jonas. Jésus fait mention dans cette réponse donnée à des religieux qui lui demandent un signe extraordinaire. Alors nous parlerons de cette demande après, mais déjà, pasteur Arnaud Jeuch, ce Jonas, c'est bien l'histoire de ce prophète avalé par un poisson, recraché sur une plage, qui va finalement prêcher dans la ville de Ninive, et dont les habitants se repentent après l'avoir entendu. C'est de cela dont parle Jésus.
Oui, c'est bien ça. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette histoire, c'est que la prédication qu'il est censé formuler aux Ninivites, qu'il formulera aux Ninivites, est bien concise. Dieu lui demande simplement, dis aux Ninivites, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Mmh. Et c'est tout. Dieu lui dit d'annoncer à la ville de ses ennemis héréditaires que leur capitale sera détruite. Et ça devrait même être une bonne nouvelle pour lui, mais il va refuser. Jonas est d'abord un prophète qui ne fait pas ce que Dieu lui demande.
Pourquoi refuse-t-il d'obéir à l'ordre de Dieu, surtout quand vous soulignez que finalement ça lui fait un peu plaisir, l'annonce-là ?
Ah ben oui, au début de l'histoire, en tout cas, le lecteur ne le sait pas. Il peut supposer éventuellement qu'il a peur, mais l'auteur ne nous le dit pas. Jusqu'à la fin du livre, où là on va comprendre, parce que la repentance des Ninivites va agacer Jonas. Il va dire à Dieu, mais voilà, je savais que tu étais un Dieu qui fait grâce, et qu'en annonçant un jugement, il se pouvait que les Ninivites se repentent, et que finalement tu refuses de les détruire. Et ça me contrarie.
Mais oui, ça va à l'encontre de ses projets personnels.
Voilà.
Jonas refuse en premier lieu. Mais malgré tout, il finit par accepter. Alors, je vous propose d'écouter quelques mesures d'une chanson qui, elle, est une forme de réponse positive, puisque ce titre s'appelle « Jésus, je te suivrai ». On reparle de tout ça après. C'est un morceau de Sébastien Korn qui est ici interprété par Clara Jouté dans une très belle version acoustique.
Dans la joie, quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence s'abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, comme mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu
C'est Clara Jouté, Jésus, je te suivrai, une très belle artiste à suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On revient au récit de Matthieu, pasteur Arnaud Jeuch, avec une remarque que je me faisais. Ce signe de Jonas, ou bien encore à la suite, cette reine du Sud, l'évocation de Salomon, tout ça, ce sont des histoires très très loin de nous, mais pour ceux à qui parle Jésus, c'est totalement dans leur système de pensée. Jésus n'est en fait pas du tout déconnecté, mais au contraire complètement en lien avec la culture et la spiritualité du moment de ceux avec qui il parle.
Absolument. Il utilise des représentations connues de ses auditeurs. C'est le propre même des récits communs que d'avoir des représentations communes disponibles auxquelles on peut faire référence. On dirait aujourd'hui qu'il a fait une ref connue.
Oui, c'est ça. On n'a pas toujours les refs, mais là, ceux qui l'écoutent l'ont, naturellement.
Absolument.
Il y a donc un signe extraordinaire demandé par les religieux là qui sont là avec Jésus. Pourquoi déjà un signe ? Qu'est-ce qu'il y a derrière la pensée de ceux qui demandent ?
Alors, ils demandent un signe alors qu'ils en ont déjà eu. de nombreux. Jésus a fait déjà plusieurs miracles, a démontré plusieurs fois ce qu'il disait. C'est en fait la mauvaise foi, son mauvais jeu de mots, de ceux qui demandent des signes en permanence, comme lorsqu'on discute avec quelqu'un qui vous demande sans cesse de prouver ou de justifier ce que vous dites et dont la preuve ne les satisfont jamais.
Oui, c'est vrai. Et en plus, juste dans les textes qui précèdent, le chapitre précédent, il se passe beaucoup de choses assez extraordinaires.
Absolument.
Et donc, le signe de Jonas, c'est la réponse, le seul signe donné par Jésus. Alors là, on a besoin d'un peu d'explication de votre part, Arnaud. De quoi s'agit-il ?
Ah ben, Jésus le signifie lui-même, en quelque sorte. Il le dit, c'est sa mort et sa résurrection. Comme Jonas a passé 3 jours dans le ventre d'un poisson, eh bien, Jésus passera 3 jours dans la terre ensevelie. C'est bien ce que Jésus pointe, Jésus annonce à l'avance sa mort et sa résurrection qui viennent.
Est-ce que l'on pourrait parler de prophétie ? Est-ce qu'il est en train de prophétiser quelque chose là, puisqu'il parle de choses à venir ?
Oui. Oui, mais on aurait tort, comme on le fait parfois dans le langage courant, de limiter le sens de la prophétie à la prédiction. Le prophète est d'abord un prédicateur. Il parle de la part de Dieu pour dire à ses auditeurs ce que Dieu veut, attend ou ce qui devrait être fait. C'est une prophétie, c'est vrai, dans le sens où il va annoncer quelque chose, mais c'est d'abord une prophétie parce qu'il dit plein de choses, parce que le prophète annonce parfois, dans sa prédication, des choses inattendues. Et si cela se passe comme c'est annoncé, alors le reste de ce qu'il dit doit être vrai. Parce que si on peut vérifier quelque chose d'inattendu dans ce qu'il dit, et que c'est pourtant difficile à croire, eh bien, le reste, tout le reste, devrait être digne d'intérêt.
Et précisément, les religieux passent à côté. Ils n'ont pas perçu ce que Jésus est en train de dire, semble-t-il.
Absolument. Alors que le message de Jésus doit être digne d'intérêt, les religieux, eux, le refusent, ce message. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Parce que quand ce signe, d'ailleurs, se réalisera, eh bien, les religieux vont soudoyer les premiers témoins de la résurrection, à savoir les gardes, pour cacher cette information. Et ils vont refuser, ils vont falsifier les faits pour ne pas croire.
Et pourtant, une résurrection, ça n'est vraiment pas rien. On peut pas dire que ça soit un événement anodin.
Ah, c'est sûr que ce n'est pas une demi-nouvelle. Si quelqu'un est ressuscité des morts, alors ça devrait faire la une. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que les disciples qui témoignent de cette résurrection, ils savent bien que les morts ne ressuscitent pas. Ouais. En fait, à l'époque, s'il y a un fait qui est bien établi depuis très longtemps, c'est que les morts restent morts. Donc, pour témoigner qu'un mort est ressuscité, ce n'est pas pour faire croire quelque chose. C'est bien qu'ils annoncent quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, qu'ils ont vu. Ils sont en train d'essayer de convaincre des gens de l'incroyable. Parce que ils l'ont vu, ils en ont été témoins. Jésus l'a annoncé, et si ça s'est produit, alors tout ce qu'a dit Jésus est vrai et incroyable.
Et c'est une façon d'approuver, d'attester en effet. Mais le signe de Jonas n'évoque pas ce que nous venons d'écouter uniquement, la preuve, si j'ose dire, avec la chronique de Vincent Smetana.
Bonjour Vincent.
Bonjour Jean-Luc.
200e de Solae ce matin, je le disais, 47e chronique de Vincent Smetana. Et pour cette 47e chronique, vous avez bugué sur le mot « signe ». Car oui, vous avez ce défaut et ce talent de bugger sur certains mots. D'ailleurs, pourquoi pas un jour bugger sur ce verbe ? Ce serait certainement très intéressant. Bon, je m'égare, mais en tout cas, vous avez trouvé le mot pour dire ce matin encore. Et nous vous écoutons, Vincent.
Eh mais, bon anniversaire. Non mais 200 quand même. Attendez, 200. Vous avez commencé à produire des émissions quand vous étiez enfant, Jean-Luc, ou bien ?
Oh, vous êtes gentil.
Bon allez, si vous le permettez, je relis juste ceci. Les foules se pressaient et il a dit « Cette génération est mauvaise, elle cherche un signe, mais elle ne recevra aucun signe, sinon le signe de Jonas. Car si Jonas fut un signe pour les habitants de Ninive, il en sera de même du Fils de l'homme pour cette génération signée Jésus. » Signe, signe. Alors, l'histoire de Jonas, c'est l'histoire du type plongé dans le ventre de la baleine. Ah, j'ai dit baleine exprès pour déclencher une réaction. Donc, si je dis Jonas et la baleine, vous me dites, mais non, enfin, voyons, il n'est pas écrit baleine, il est écrit gros poisson. Ah ah, vous voyez le détail qui tue. Mais pour ce genre de détails, on s'énerve. Et c'est un signe. Oui, mais un signe de quoi, Vincent? Signe qu'on lit la Bible en général en diagonale. C'est là qu'est l'os, hélas. En philosophie, la définition d'un signe est déterminée par sa double fonction d'exprimer et de communiquer. Pour exprimer, il doit rendre présent, sous une forme quelconque, quelque chose qui n'est pas présent ou pas perçu comme tel. Et pour communiquer, il doit pouvoir être perçu et identifié comme signe. Je reviens à ça dans 2 minutes.
Pas plus, parce que ce sera la fin de la chronique, Vincent.
Oui, non, j'avance. Signe, du latin signum, pour dire la marque, l'indice, l'empreinte, signifie certaines démonstrations extérieures que l'on fait pour donner à connaître ce que l'on pense ou ce que l'on veut. Un signe est donc une réalité sensible qui en signale une autre. C'est son sens et sa fonction. Un signe établit donc une relation. Là, je sens bien que je suis en train de vous perdre. Donc allons-y pour un exemple concret, histoire de se réveiller les sens. Partant du principe que la réponse au signe est une action, si l'on dispose de la mayonnaise sur la table, c'est le signe qu'on va manger quoi ? Des frites !
C'est la belgitude qui revient, là, qui s'installe.
Ah, ça, Jean-Luc, chasser les frites de la table et elles reviennent au galop. Voilà, bon, donc ici, on ne voit pas les frites, mais la mayonnaise est un signe avant-coureur qui déclenche immédiatement des chatouillements dans le haut de l'estomac et le contour des gencives en amorçant une salivation abondante. La salivation est un indice de la joie à venir, signe naturel qui indique l'avènement d'une chose nouvelle qui n'est pas encore présente ou qui est présente mais qui n'est pas directement perçue. La mayonnaise, signe de l'arrivée des frites, fumée, signe du feu qui couve, ou encore Sherlock Holmes qui, avec quelques cendres tièdes dans un cendrier, découvre la marque du cigare, signe incontestable de son génie. Retenons ceci donc, un signe est toujours précis. Un signe est toujours censé déclencher une action ou à minima une émotion. Pour compléter mon exemple, un plat de frites molle qui arrive sur la table est le signe de quoi, Jean-Luc ?
Bon, je dirais d'un ratage, en tout cas, quelque part.
Ouais, un ratage quelque part, non, un ratage sans aucun doute. Signe évident d'une cuisson bâclée en un tour. Or, tout cuiseur sachant cuire sait que l'on se doit de plonger les frites 2 fois. Une fois à blanc, 5 à 6 minutes à 170 degrés. Une seconde fois pour les dorer, pas plus de 2 minutes à 190 degrés. Le signe de la frite molle déclenche une émotion, la colère du mangeur, et une action, renverser les tables en blâmant cette génération de cuiseurs qui ont fait des baraques à frites un repère de voleurs et qui réclament des signes mais n'ont pas de papy pour goûter.
Et là, toute ressemblance avec des faits ayant existé, bon, vous connaissez la suite.
On connaît la suite, grosse colère. Bon, revenons à Jonas. En cherchant parmi les représentations nombreuses de notre homme dans le ventre du poisson, j'en ai distingué une, celle de l'artiste anversois Guido Vermeulen. Et qu'est-ce qu'on voit ? Un homme comme inséré dans un passage, le ventre de cet animal comme passage. Le voilà symboliquement le signe pour qui sait le lire, ce temps de vie différent, ce mouvement de sommeil à réveil, d'obscurité à clarté, de profondeur à altitude, de ce qui était à ce qui devient, et j'y reviens. Un signe a cette double fonction d'exprimer et de communiquer. Ici, pour exprimer, il doit rendre présent Jésus comme sauveur, bien-aimé du Père, qui ne donnera qu'un seul signe éclatant de sa mission à cette génération de coupeurs d'ailes de mouches en quatre et d'ergoteurs que sont ces fatigants pharisiens, car Dieu le gardera de la mort en le ressuscitant comme il a gardé et préservé Jonas du monstre marin, ouvrant par sa voix pour chacune de nos vies un passage inédit, un singulier Pessa. Et enfin, il communique par ce signe, la force éclatante de sa tendresse. Le Fils de l'homme nous conduit vers ce qui ressuscite en nous la vie, rien moins. Comme le dit Jonas dans la splendide traduction de Marc-Alain Wachnin et Anne Dufour-Mantel, « La terre, ses verrous, se referment sur moi aux extrémités du temps, mais de la destruction, tu fais remonter ma vie. Alors, à moi, par ma voix, un merci. » Vous voyez, Jean-Luc, oui, en fait, il suffira d'un signe, un matin, point.
Alors, je retiens le signe de la frite molle, quand même. Et puis, double signe amical à Jean-Jacques pour la chanson. Et puis, à celui qui nous suit sur Culture le dimanche matin et que nous apprécions beaucoup, vous et moi, Vincent, ce cher Marc-Alain Wachnin. Moi, je connaissais aussi le Z, ce signe qui veut dire Zorro, mais c'est une autre chose, une très bonne Madeleine télépersonnelle. Merci Vincent, merci
avec
pour
plaisir.
Cet apport qui ne devrait sans doute pas manquer de faire réagir notre invité tout de suite, le pasteur Arnaud Jeuche. Alors Arnaud, le signe devient donc une ouverture à quelque chose de plus, comme le disait Vincent, de la mayo, les frites qui arrivent, mais surtout un repas derrière. On ne se contente pas en fait de regarder la table là dans cette histoire.
Eh oui, c'est pas juste l'annonce d'un signe, c'est que le signe va devenir lui-même une annonce pour Jésus. Il semble suggérer que Jonas est lui-même un signe pour les Ninivites. Mmh. Alors, quelle est la référence? Quelle est la ref? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ce signe fait naître, de plus ou moins conscient chez les auditeurs de Jésus, qui eux n'étaient pas belges, mais qui ont la ref? Et Jésus suggère qu'il se produira des choses similaires qu'à l'époque de Jonas.
Comme Jonas, donc? Mais aussi, le texte le dit bien précisément, plus que.
Oui, parce que Jésus suggère ici qu'il y a bien une situation similaire, mais aussi un dépassement. Comme si Jonas était un avant-goût. Il convient donc à la fois de comprendre la similarité des situations, mais aussi le dépassement que Jésus se propose de faire.
Alors concrètement, ici, le signe de Jonas, que va-t-il produire?
Eh bien, cette prédication de Jonas avait conduit étonnamment à la repentance, un changement d'attitude des Ninivites, de ces étrangers. Eh bien, la prédication de Jésus devrait conduire à la repentance, à un changement d'attitude, et peut-être même des étrangers, des rejetés, de ceux qui n'avaient pas accès au message a priori.
Peut-on considérer que la mort de Jésus serait une forme d'échec?
Oui, sauf que c'est annoncé. Et donc ça ne peut pas être un échec si c'est au programme. Oui, ce jugement, en quelque sorte, a lieu, s'opère. Mais alors que les hommes pensent juger à mort le Fils de Dieu, eh bien Dieu va juger les hommes pour leur faute. Un jugement à mort, mais qui sera porté par un innocent, par Dieu lui-même, en fait, en la personne de Jésus.
Et donc, étonnamment, il se produit une sorte de retournement de situation, là.
Exactement comme dans l'histoire de Jonas. Cette surprise, cette première surprise, l'annonce du jugement, pur et simple, conduit à l'acquittement, à la grâce, à ce que finalement, ce peuple qui méritait la mort, d'après la prédication initiale de Jonas, eh bien, se retrouve appelé à la vie.
Alors ça, c'est donc la première surprise, mais ça ne s'arrête pas là. Le texte continue avec l'évocation de Jonas, et puis dans la réalité aussi, avec ce qui se produit à la mort et la résurrection de Jésus.
Oui, et Jésus continue à filer d'ailleurs cette image avec Salomon et la reine du Sud. C'est la deuxième surprise, c'est que ceux qui sont pourtant ennemis de Dieu sont sauvés d'un jugement qui devait les atteindre. Parce qu'ils ont reçu cette prédication. C'était à l'époque les étrangers et c'était peut-être à l'époque de Jésus ceux qui étaient exclus des religieux, les étrangers aussi à l'époque. Toutes ces catégories qui n'étaient pas censées avoir cet accès à Dieu, qui maintenant ont accès à Dieu. C'est ce qui n'avait pas plu à Jonas.
Mais oui, c'est là qu'on comprend en fait ce qu'on a évoqué un tout petit peu au début. Pour Jonas, ce projet était que les Ninivites soient punis, exterminés. On peut d'ailleurs faire des analogies avec des récits dans les évangiles, avec ceux qui sont autour de Jésus, quand Pierre sort l'épée. Enfin voilà, il y a des histoires comme ça. Mais Jonas avait aussi une particularité, c'est qu'il connaissait bien son Dieu, ce Dieu riche en bonté.
Oui, alors qu'il avait peur que Dieu fasse grâce, d'où sa colère contre Dieu à la fin du livre dont qu'on a évoqué, en fait révèle sa jalousie. Il voulait garder son Dieu pour lui, il voulait garder son précaré, son identité. Mais voilà, Dieu avait un autre projet, il voulait ouvrir le salut. Et c'est un peu ce que les religieux à l'époque de Jésus refusent en quelque sorte, jusqu'à refuser le signe, même le signe de Jonas. Ils refusent que ce salut soit ouvert à ceux qui ne sont pas les religieux, à ceux, aux nations, aux autres, à tous. En fait, voilà, les religieux refusent cette prédication de Jésus d'une relation possible à Dieu, ouverte pour tous les gens. Qui reçoivent, qui acceptent la prédication de Jésus. Parce que la mort et la résurrection de Jésus ouvre à une reconnaissance universelle de ce roi qui n'est plus seulement le roi d'Israël à l'époque. Il a été accueilli comme le roi David par la foule à Jérusalem, crucifié comme le roi des Juifs, et il ressuscite comme roi des rois, le premier d'une humanité nouvelle, réconciliée avec Dieu. Oui, il y a bien plus que le roi Salomon ici. Il y a un grand roi qui partage son salut avec les hommes.
Et oui, et on pourrait faire plein d'analogies avec des choses encore aujourd'hui qui peuvent se vivre, des manières de considérer la foi. En tout cas, un grand merci parce que finalement, la grande nouvelle de Pâques, elle est là. Pour nous, le signe de nous diriger aussi vers la fin, même s'il y aurait encore mille choses à creuser dans ce fameux signe. Merci vraiment, pasteur Arnaud Jeuche, d'avoir pris ce temps avec nous dans ce temps de Pâques, en passant par cette belle histoire. L'histoire de Jonas.
Oui, il est vraiment ressuscité.
Juste quelques mots avant de se séparer pour vous recommander un joli film venu d'Asie en salle depuis mercredi, Comment devenir riche grâce à sa grand-mère, entre parenthèses, réalisé par le Thaïlandais Pat Bunithipat. Un long métrage très touchant, ne manquant ni d'humour ni de spiritualité, mettant en lumière le sens de la famille et l'importance de prendre soin de ses proches. C'est un coup de cœur personnel que j'avais envie de vous partager dans cette période de Pâques qui peut nous aider à donner du sens à notre manière de vivre. Comment devenir riche, entre parenthèses, grâce à sa grand-mère. Et pour nous quitter, la chanson « Il est vivant ».
Il est vivant, il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans. Il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Avec l'ange au sépulcre, devant Marie désolée, le pèlerin d'Emmaüs pour toujours consoler. Avec les douze apôtres, par l'esprit transformé.
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé ce matin par Cassandre Puel et avec Delphine Baudet à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2 à 10h dans Présence protestante, ce matin vous retrouvez le culte de Pâques célébré en Eurovision et proposé par la radio-télévision belge. Et sur Culture, dans quelques instants, les informations puis l'excellent Talmudique animé par Marc-Alain Wachnin. Très bon dimanche de Pâques à chacune et chacun.
Que le royaume est là et qu'un désir immense les appelle à la joie. Je veux crier, crier la vérité. Il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Nous c'est Jésus. Ressuscité, pour qui nous voulons chanter, nous avons faim.